0, brassage radio. Aujourd'hui, on colle à l'air du temps et on s'écrit en chœur.
Métropole, mon amour !
Mon amour.
C'est fini d'habiter la ville.
Maintenant, nous habitons la métropole.
Fini la province, nous voilà au cœur du pouvoir.
Au cœur du progrès.
Au cœur du futur.
L'inflation du discours sur l'urbain marque les politiques municipales qui ont décidé de passer aux choses sérieuses.
Pour maximiser les profits des unes
et l'exploitation des autres.
La métropole est à l'ère des services, ce que l'usine est à l'ère industrielle.
L'organisation méticuleuse de nos déplacements, de nos positions et de nos gestes.
Pour que s'accumule sans fin le capital des rois de la mine et du rail.
Qui aujourd'hui comme hier ne font rien d'autre que dévaliser le travail.
Après un petit explicatif de la métropole nantaise, on partira faire un tour de métro.
Ce faisant, on rencontrera Tezo et d'autres projets fous.
On nous rattrape à l'arrêt compte pour la suite et fin de...
Mélusine et des sorcières au placard à balai.
Bonne écoute.
Le terme gentrification, c'est un terme de sociologie. La gentry, c'est la petite noblesse en Angleterre, mais en réalité, ça a été un terme forgé dans la sociologie anglaise des années 70-80 pour désigner un phénomène d'embourgeoisement des quartiers populaires dans les villes qui sont petit à petit colonisés par les classes moyennes, les cadres, puis... D'abord, il y a un processus qu'on pourrait qualifier de mixité sociale, quoi, où il y a à la fois des classes populaires et des classes moyennes supérieures. Et puis, petit à petit, les classes populaires, les ouvriers, etc., sont évincés de ces quartiers-là vers les périphéries par tout un tas de processus, notamment la hausse des loyers qui est produite justement par l'arrivée d'une petite bourgeoisie intellectuelle puis d'une bourgeoisie économique. Alors, ce qui est compliqué avec le terme gentrification, c'est qu'aujourd'hui, on l'utilise pour... quasiment tout. Dès qu'on voit un phénomène urbain, un aménagement, etc., on dit c'est de la gentrification. Alors souvent, il faut essayer d'avoir une analyse un peu plus fine, quoi. Il y a plein de rapports de force au sein des villes, plein de dynamiques. Parfois, il y a des aménagements luxueux tout de suite qui viennent raser un ancien... Bon, là, je vous lise des exemples concrets, mais par exemple, il y avait un ancien tribunal, une ancienne prison et une ancienne caserne. Donc trois bâtiments régaliens, trois bâtiments punitifs qui servaient à sanctionner, qui étaient situés sur la même place à Nantes. Et en 5 ans, là, ces 5 dernières années, ces trois bâtiments-là qui étaient désaffectés ont été transformés en hôtel de luxe pour le tribunal, en complexe résidentiel très haut de gamme pour l'ancienne prison et en spa balnéo de luxe pour la caserne. Donc là, on ne peut pas parler de gentrification, par exemple. Il y a une politique maintenant qui est une politique d'ostentation, de richesse, de guerre de classe, mais c'est au-delà de la gentrification sur certains aménagements de centre-ville.
Et donc pourquoi on ne parle pas de gentrification dans ces cas-là ?
Bah parce qu'on peut parler de gentrification, par exemple, pour des quartiers à Nantes comme Chantenay ou Doulon, qui sont d'anciens quartiers ouvriers, qui étaient, on va parler de Chantenay, qui étaient peuplés par... une plèbe qui travaillait au chantier naval, qui travaillait dans les usines du Bas-Chantenay, tout un prolétariat qui venait de Bretagne au début du XXe siècle, qui a parlé breton jusqu'au milieu du XXe siècle quand même. Ça parlait breton à Chantenay. Et à partir des années 90, c'est un quartier qui a été investi par des classes moyennes, diplômés, intellectuels. Et aujourd'hui, on voit arriver maintenant des 4x4, des chefs d'entreprise qui investissent ce quartier. Il n'y a quasiment plus d'ouvriers à Chantenay. Et Doulon, à l'est de Nantes, c'est un peu le même phénomène. Donc là, pour le coup, c'est un phénomène caractérisé de gentrification. Pour les quartiers du centre-ville, on peut dire qu'aujourd'hui, là, on est dans une dynamique de métropole, de métropolisation. Et dans le cœur des métropoles, on pourrait dire qu'il y a plutôt une sorte de cohabitation entre des très riches, qui ont un gros patrimoine et qui peuvent s'acheter ou louer des apparts de standing très spacieux, et une sorte de prolétariat urbain d'étudiants qui travaillent comme livreurs à vélo, de serveurs, de précaires, etc. Donc voilà, il y a plus une sorte... Les classes populaires, ouvrières, et les classes moyennes, elles vivent plutôt en périphérie. Donc là, à Nantes, ce qui est intéressant d'évoquer, c'est le phénomène de métropole et de métropolisation. Alors, le phénomène de métropolisation, il va justement regrouper tous ces phénomènes-là qu'on vient d'évoquer, parce qu'aujourd'hui, les villes sont ancrées, depuis le tournant néolibéral, global, etc., elles sont ancrées dans une concurrence territoriale entre les territoires. Il y a une concurrence à l'échelle européenne, il faut que la ville soit, entre guillemets, attractive, soit rayonnante, qu'elle attire des cadres, qu'elle attire des richesses. La métropole doit être... On n'est plus dans le cadre d'une ville qui a un lieu de vie, d'échange, etc. On est dans le cadre d'une métropole qui a un lieu qui doit concentrer des flux de richesses, des flux de passage, des flux de marchandises, etc. Et donc pour être comme ça, il faut répondre à des critères. Et donc à Nantes, on nous rabâche, c'est une métropole internationale, donc elle doit se doter d'atouts internationaux. Par exemple, au hasard, un aéroport. C'est exactement dans cette optique-là qu'on a déterré le projet d'aéroport au début des années 2000 pour dire qu'il faut que Nantes soit une grande ville à l'égal de Amsterdam. Les élus avaient un peu la folie des grandeurs. Il faut qu'il y ait un grand hub aérien international dans l'ouest de la France, et il faut que ce soit à Nantes parce que Nantes doit être une capitale internationale. C'est dans la même logique qu'on construit des hôtels 4 étoiles un peu partout, parce qu'une ville qui a des hôtels 4 étoiles, elle peut héberger des cadres, elle peut accueillir des grands événements d'entrepreneuriat, de sport, etc. On va promouvoir des grands festivals d'art contemporain. Par exemple, le voyage à Nantes, ça aussi, ça vise clairement une classe supérieure éduquée qui va venir voir des œuvres d'art contemporain dans la rue. Et parallèlement, l'aménagement de la ville se fait par la culture à Nantes. C'est ça qui est assez intéressant. Donc, comme on disait tout à l'heure, Nantes, c'était une ville ouvrière jusqu'à la fin des années 80. Il y avait les chantiers navals, il y avait plein d'usines qui étaient encore dans la ville, qui ont toutes fermé en quelques années, dans les années 80. Et quand le Parti Socialiste est arrivé au pouvoir, en 89... il a fait le pari, Jean-Marc Ayrault à l'époque a fait le pari d'aménager la ville par la culture. Et donc par exemple l'île de Nantes, qui est l'île au centre de la ville, qui était une grande esplanade de friches industrielles en fait, il n'y avait quasiment pas d'habitation, c'était là où il y avait le prolétariat qui venait travailler, et quand les usines ont fermé, c'est devenu des friches, qui a été réaménagée par toute une série de projets culturels, des festivals, les allumés, le voyage à Nantes, estuaire, etc., les machines de l'île, là, le fameux éléphant qu'il y a sur l'île de Nantes. Et donc petit à petit, on a valorisé entre guillemets cet endroit-là. Et donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, une fois que l'espace est valorisé, aseptisé, qu'il attire de la consommation, on a installé un projet résidentiel, et là, en ce moment même, il y a des grues absolument partout sur l'île, et là, on est en train de construire des dizaines et des dizaines de milliers de mètres carrés de logements neufs pour des cadres qui veulent s'installer au cœur de la ville. Voilà, et donc ça, cette logique-là d'aménagement par la culture, on la retrouve partout. Là, on est en train de discuter sur une place dans le centre-ville qui est la place du Bouffay. Il y a encore 5 ans, sur la place du Bouffay, il y avait des halles qui hébergeait des bouquinistes, des zonards. Le soir, les gens pouvaient se poser sous les halles, boire un coup sans dépenser d'argent, parce qu'il y a des bars partout dans le quartier là. Et le Voyage à Nantes, donc le festival d'art contemporain qui a lieu tous les ans, a installé une œuvre d'art au milieu de la place du Bouffay, donc il fallait enlever ces halles-là. Et le président de Nantes Métropole, cette année-là, a dit « on va les enlever temporairement pour laisser place à cette œuvre d'art ». Et en fait, elles n'ont jamais été remises. Et donc là, vous ne pouvez pas voir, mais cette place, elle est totalement lisse, nette. Il n'y a rien, il n'y a que des bars. Et donc, on peut soit y passer, soit s'arrêter pour consommer. Mais on ne peut pas s'arrêter juste pour discuter. C'est une place qui est parfaitement adaptée aux contraintes sécuritaires, de visibilité, etc. Et donc, voilà comment on aménage la ville par la culture et par l'art subventionné. Et il y a le même projet aujourd'hui, on parlait de Chantenay tout à l'heure. Dans le bas Chantenay, il reste encore quelques friches industrielles. Elles vont être, elles aussi, aménagées avec des grands projets culturels. Et dans les années à venir, autour de ces projets culturels, il y aura des grands complexes résidentiels haut de gamme. Donc à chaque fois, on implante d'abord la culture et ensuite on aménage. Ça permet, c'est du consensus. On n'est pas dans une ville comme Toulouse où on va aller de façon extrêmement... bourrin, etc. Là, on fait du participatif, on fait un projet consensuel, comme ça l'électorat socialiste est content, et c'est beaucoup plus insidieux. Et en même temps, c'est exactement la même chose, on installe des classes supérieures à la place des classes populaires, et on adapte la ville aux contraintes sécuritaires, commerciales de l'époque.
quelques mois, j'ai eu la joie de trouver dans ma boîte à courriel une invitation de l'AUAT, Agence pour l'urbanisme et l'aménagement de Toulouse. Vous connaissez pas ? Pourtant, c'est là que des architectes, urbanistes, géographes, économistes, sociologues, ingénieurs, paysagistes, statisticiens, graphistes, etc. prospectent, projettent, étudient, diagnostiquent la ville et l'urbain depuis la fin des années 70. Sous forme d'association loi 1901, ce sont 58 personnes qui accompagnent les pouvoirs locaux. C'est d'ailleurs à l'occasion des 40 ans de l'agence qu'étaient proposées des balades urbaines, des promenades dans la ville et ses projets, pour des décideurs et des acteurs de la métropole et de l'aire urbaine. Évidemment, Brasero y était pour suivre l'arc du Ferville, Sandec, c'est comme ça que ça s'appelle, qui suivait de Colomiers à la Bège le circuit de la future ligne de métro dite Toulouse Aerospace Express. Une place privilégiée pour voir le futur de la métropole et l'importance de la connexion entre différents espaces économiques. Petit parcours commenté au fil de l'émission. On va commencer par Colomiers. Ville Airbus par excellence, petit village à la fin des années 50, c'est aujourd'hui la deuxième ville de Haute-Garonne et porte d'entrée de la métropole pour tout le Gers. Laissons Karine Traval-Michelet, la maire de cette ville, faire la présentation.
Je suis ravie de vous accueillir avec mon adjointe à l'urbanisme, Laurence Casalis. Alors, comme bien sûr vous le constatez, nous nous trouvons ici à la gare centrale de Colomiers, mais vous le savez aussi, cette gare n'a pas toujours été là, et le centre de ville non plus. Colomiers, il y a 1960, était encore un petit village de 2000 habitants, qui est devenu en donc quelques dizaines d'années une grande ville. Alors on reste toujours fiers de protéger cette deuxième place que nous avons de deuxième ville du département et de la métropole. Mais c'est vrai que le contexte urbain a beaucoup évolué. Hein, moi, je me rappelle, quand j'étais très jeune, puisque je suis née ici, imaginez-vous que quand on venait se promener au Cabirol, vous allez y faire un tour tout à l'heure, de l'autre côté, eh bien, on allait se promener à la campagne. Voilà. Et donc, le centre-ville était vraiment concentré autour du village. Il y a eu quand même quelques étapes. Bien sûr, la ligne de chemin de fer a également été déplacée pour venir se connecter ici. Et bien entendu, cela a permis une meilleure circulation des flux entre notamment Toulouse et Colomiers. Ce n'est qu'en 2000, de mémoire, là je parle, ce n'est qu'en 2000 que le TER, donc la ligne C, ce qu'on appelle nous la ligne C, est venu bien sûr s'implanter ici et desservir notre ville pour notre grande satisfaction d'ailleurs. Cette ligne C qui est aujourd'hui, on peut le dire, quand même saturée. Il faut que vous vous imaginiez que Colomiers, c'est 40 000 habitants, de l'habitat parfois très dense, notamment sur le centre de la ville, on le voit en arrivant, mais ce sont aussi, évidemment, c'est aussi un tissu économique extrêmement important. Nous accueillons 2700 entreprises ici sur notre ville et 27 000 emplois qui sont également présents sur la ville. Et donc, bien entendu, les questions de flux, de circulation et de déplacement sont devenues un enjeu majeur. Le grand projet de troisième ligne de métro, la TAE, prévoit son terminus ou son point de départ, ici même à la gare centrale.
Brasero,
Métropole 1.
Monsieur le Corbusier, nous sommes venus chez vous pour vous demander s'il existe, selon vous, une solution d'urbanisme pour Paris.
Il faut annuler les effets d'une longue négligence et chercher tous les moyens par lesquels Paris peut redevenir une ville de beauté et d'harmonie.
Toum, 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 toum. Un métier en deux mots. Bonjour, voici, comme chaque semaine, la chronique qui résume un métier peu ordinaire en deux mots. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Christophe de l'Urbanisticus. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc adjoint à la mairie de Paris en charge de l'urbanisme, de l'architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité, et des appels à projets urbains innovants Réinventer Paris.
Tout à fait.
Pouvez-vous nous expliquer votre métier en deux mots ?
Bien évidemment. En deux mots, mon métier est d'agir pour notre métropole de demain, notre Grand Paris. Et bien évidemment, il nous faut innover dans les usages. Les bâtiments que nous devons construire seront, doivent être pluriels, mutables, intelligents et connectés. De couleur verte, qui plus est. Les mutations rapides des modes de vie citadins appellent à innover dans les manières d'habiter, en faisant émerger des espaces de convivialité mutualisés, comme par exemple des fermes urbaines, qui nous sont si chères. Nous nous devons également de modifier nos manières de travailler et d'étudier. Grâce au Learning Center, au Coworking, au Télétravail et aux incubateurs d'un type nouveau. J'adore ce terme incubateur, je trouve ça formidable. Enfin, nous devons transformer nos manières de commercer à travers des showrooms partagés, des fab labs, des magasins éphémères, des food trucks. Nous devons nous mettre en marche pour la croissance verte. Finalement, mon rôle est de permettre d'inventer un nouveau Paris, adapté au vieillissement de nos populations, soucieux de nos classes moyennes, tout en confirmant notre place de hub européen et de smart city à l'échelle mondiale.
Merci beaucoup.
Je vous remercie.
Nous recevions aujourd'hui donc Jean-Christophe de l'Urbanisticus, adjoint à la mairie de Paris en charge de l'urbanisme, de l'architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité et des appels à projets urbains innovants Réinventer Paris. Merci pour votre concision.
Merci.
Une étape cruciale dans l'arc du Ferville, c'était la rencontre avec un technocrate de la société d'économie mixte en charge de plusieurs projets, Europolia, ici à Toulouse. Ce petit bourreau de ville, aux mains blanches, nous a tranquillement expliqué la destruction d'une partie de Toulouse, sans jamais ne rien dire des vies qui resteront coincées sous les décombres.
Je vous présente Olivier Duvernois.
Bonjour.
Qui est d'Europolia.
Olivier, je vais te laisser présenter le projet Théo.
Donc Toulouse Euro Sud-Ouest, c'est trois enjeux qui se cumulent. On a un enjeu bien évidemment de projet urbain. L'idée, c'est vraiment de se dire, en fait, on est dans une logique d'extension du centre-ville et on amène aux abords de la gare un certain nombre de fonctions métropolitaines qui aujourd'hui sont assez peu présentes dans le centre-ville. Et la première d'entre elles étant les questions de bureaux. En fait, à Toulouse, on a plutôt un déficit de bureaux en centre-ville. Deuxième élément important du projet, c'est qu'en fait, il y a un enjeu d'intermodalité absolument essentiel. Donc en fait, on va globalement doubler la gare de Toulouse-Matabiau, non pas pour accueillir le double de train, mais surtout pour accueillir le métro. Et donc il y a un enjeu très fort autour du réaménagement de la gare pour la transformer en grand pôle d'échange multimodal. Et puis, troisième élément, c'est toute la rationalisation et la réorganisation du système ferroviaire. Et on a aussi des enjeux importants sur la question des territoires. Donc là, on est sur le système le plus resserré. Il y a à peu près à cette échelle-là, on va dire, entre 420 et 450 000 m² de développement immobilier qui sont portés. Et lorsqu'on travaille à l'échelle un peu plus large, on a des enjeux de renouvellement urbain très, très importants qui se situent à la fois sur le bas du Faubourg Bonnefoy. Hein, on sent bien que le Faubourg Bonnefoy, il est un peu un tournant de son histoire, c'est-à-dire que pendant longtemps, en fait, il s'est senti faubourg, même quasiment à la campagne. C'était la campagne dans la ville. Et puis, aujourd'hui, le Faubourg Bonnefoy, c'est déjà quasiment le centre-ville, à la fois avec ce qui se joue sur Toulouse au sud-ouest et puis l'arrivée programmée d'une station de la table. Et puis, le deuxième espace sur lequel on a des enjeux importants de renouvellement urbain, c'est tout le secteur qui est coincé entre le Faubourg Bonnefoy et Bordeaux Rouge, où, en fait, progressivement, la ville est presque venue mourir, où, du coup, on a à la fois un mélange un peu hétéroclite d'activités industrielles, d'activités économiques, de grands fonciers sur lesquels il y a une maison toute seule parce que c'était de l'histoire maraîchère, et puis quelques programmes immobiliers plutôt de mauvaise qualité qui sont venus un peu se planter. Le principal développement immobilier, la tour d'Occitanie, aujourd'hui, elle fait 150 mètres de haut, donc c'est-à-dire que c'est trois fois plus haut que l'immeuble le plus haut de Toulouse. Hein, donc aujourd'hui, l'immeuble le plus haut de Toulouse, c'est le Pullman qui fait 50 mètres de haut. Donc la tour Occitanie est trois fois plus grande. Et il y a un deuxième développement immobilier qui va se faire sur le site de la Cernam, qui se fera en deux phases. Et la première phase permettra de relocaliser toutes les installations immobilières de la SNCF qui sont sur Marengo. Donc ce que l'on voit effectivement, la fameuse tour d'argent, qui n'a que le nom de Argent, parce que c'est pas une tour. C'est la relocalisation. Alors pourquoi il y a une forme d'urgence? D'une part parce qu'il faut pouvoir commencer sans tarder les travaux de la TAE, et puis après effectivement c'est tout le développement du futur bâtiment voyageur qui est en jeu. Donc l'objectif c'est d'avoir relocalisé. Il y a quand même un peu de monde, hein. Il y a à peu près 450 agents de la SNCF qui sont sur site, d'avoir relocalisé tous ces agents pour 2021 sur la Cernam. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça va progressivement du coup générer une dynamique de projet qui va permettre à la fois à partir de ce pôle-là, cet ancrage-là et l'agence régionale de santé qui est déjà présente, d'assurer un développement complet. Voilà, donc on a ces deux grands projets immobiliers qui sont portés par SNCF Immobilier. Donc y compris on développe aujourd'hui des partenariats qui font qu'on ne rentre pas sur des opérations de ZAC classiques où l'aménageur achète la totalité du foncier et puis après développe son programme. On fait des partenariats avec la SNCF, donc c'est la SNCF qui développe, des fois fait ses appels à projets, et donc après nous on est sur un système de participation financière qui permet de réinjecter un peu d'argent sur les espaces publics en particulier.
Renouvellement, rénovation, transformation, enjeu, développement, des mots lisses, professés sur un ton neutre et sans passion. Tranquillement, le petit bureaucrate assène des coups de hache dans des vies, des corps et des liens. Il a face à lui une jolie maquette, colorée qui clignote. Visiblement amusé, il se plaît à la présenter à ses visiteurs et ses visiteuses, détaillant ce beau projet qui prendra que 30 ans de travaux. 30 ans de poussière, 30 ans de galère pour se faire.
Sur les encodages couleurs là, de cette magnifique maquette un peu qui s'illumine devant vous, donc vous avez en bleu, c'est tout ce qui est bureau. Donc on est sur des programmations qui font de l'ordre de 300 000 m². En orange, vous avez ce qui concerne le logement, avec de fait deux grands secteurs de logement. Le secteur du raisin, donc, qui fait à peu près 4 hectares, sur lequel on a eu un ensemble d'opérations immobilières des années 70-80, donc on vient d'une certaine façon un peu continuer le projet. Et puis une opération là, plutôt de rénovation urbaine au sens classique, qui est grosso modo la démolition-reconstruction de l'avenue de Lyon, qui aujourd'hui est quand même marquée par un habitat de très très mauvaise qualité, et puis qui concentre un certain nombre de problèmes. Donc sur à peu près 2 hectares, il est prévu d'acquérir systématiquement l'ensemble des biens immobiliers, que ce soit y compris dans des copropriétés, pour démolir et reconstruire. Et donc quelque part, ça renvoie à cette image effectivement de un nouveau marqueur pour le faubourg Bonnefoy, donc depuis le canal du Midi quasiment jusqu'à la place Bories et la future station de métro. En jaune, vous avez plutôt les développements commerciaux. Alors la question du commerce à ce stade, elle est à peu près stabilisée en termes de quantité, donc on va être entre 30 et 50 000 m² de commerce. Alors c'est un peu large, mais ça va dépendre y compris des options physiques qui sont retenues. Après, sur les conditions d'implantation, aujourd'hui, vous avez plutôt une implantation qui est à côté de la gare, donc elle est sur l'emplacement actuel de la gare routière, typiquement. Ça serait plus intéressant, effectivement, plutôt que de créer un pôle commercial à côté de la gare, c'est qu'on crée un pôle commercial dans la gare. Et donc, en violet, vous avez le futur pôle d'échange multimodal, donc avec cette logique d'ouverture donc à 360 degrés, donc avec le parvis historique, qui est le parvis patrimonial. Je sors de la gare, je vois la ville, je vois la rue Bayard, je vois la rue d'Alsace-Lorraine. Donc c'est le premier parvis sur lequel on va s'inscrire. Un deuxième parvis qui est le parvis Marengo, qui est le parvis de l'intermodalité, qui sera demain le parvis contemporain. Et puis deux autres parvis. Un parvis qui va se faire sur l'avenue de Lyon, qui permettra de faire le lien entre le système Matabio et le système rénal. Donc il faut faire sauter ce verrou et très clairement il faut mettre en place un parvis. Et puis un quatrième parvis qui est plutôt comme le dit Bousquet, c'est plutôt un parvis domestique qui va être au débouché de la rue Bernard-Horté, là, qui va permettre effectivement d'ouvrir y compris la gare sur l'ensemble des faubourgs, qui fait que voilà, je suis sur les faubourgs, j'ai un premier bénéfice direct de ce projet qui me permet de rentrer dans la gare et d'avoir accès à tout système de transport en commun. Et y compris, l'idée c'est que ce parvis se poursuive par une passerelle qui passerait au-dessus des voies et qui serait dans l'alignement de la rue Bayard. Qui fait qu'on crée une très grande séquence qui quasiment part de la Roseraie, prend la rue Bernard-Horté, permet de franchir le plan de voie et via la rue après Bayard d'arriver directement au centre. Voilà, donc tout ça c'est un beau projet, c'est un long projet. On pense qu'il va falloir une petite trentaine d'années pour le faire.
Voilà, une petite trentaine d'années pour accomplir les séquences. Pour faire tout ça et pour finir, c'est dans la profondeur de nos vies que l'apprenti chirurgien s'enfonce et on apprend que le projet ira un petit peu plus loin qu'annoncé.
Tu peux localiser un peu la station TAE sur la partie raisin que tu as parlé maintenant.
Alors là, elle est juste... Attends, je vais faire le tour de la maquette. Ouais. En fait, elle va être au niveau de l'avenue Pierre Collignon. En fait, du coup, elle est à l'interface du projet Toulouse-Euro-Sud-Ouest et des quartiers constitués. De fait, le territoire de projet va être desservi par trois stations, Maringot, bien évidemment, Bonnefoy et puis donc Rénal. Voilà, c'est sûr que la question de Rénal est absolument essentielle parce que ça permet de désenclaver un quartier qui est aujourd'hui dans un cône aveugle, comme le transport en commun. Ce qui est assez intéressant ici en la mettant ici, c'est qu'il comptait, on s'inscrit dans la trame Vierre, qui est la trame en particulier de la rue de Tunis et la rue d'Aquitaine. On est vraiment dans cette logique, c'est-à-dire à partir de la station de métro et de Rénal, il faut vraiment rentrer dans l'épaisseur des tissus et quasiment aller, ça amène quasiment jusqu'au boulevard des Minimes.
Voilà, après cette petite indigestion de novlangue urbanistique, le parcours a continué bon train vers son terminus. On va passer sur la partie La Bège, parce qu'elle déborde de la métropole, et que les discours sont tournés vers la science, l'innovation, les start-up et tout cela, mérite une émission en soi. Et on en parlera certainement de coworking, smart city, et autres billevesées nées au prout-prout, pour nous faire au final avaler la même soupe. En passant, on est passé par un autre pôle de développement de la métropole, Montaudran Aerospace, avec ses deux arrêts de métro, ce qui n'était qu'une zone périphérique et un vaste terrain vague devient un monument à la gloire de l'aménagement urbain par la culture. Et oui, on revient un petit peu à ce qui a été dit au début sur Nantes. Nous aussi, à Toulouse, on a le droit à avoir la culture dans l'urbanisme. Et d'ailleurs, c'est un peu les mêmes qui reviennent. Et c'est autour d'un patrimoine classé, la piste de l'aéropostale, et d'une compagnie de théâtre de rue de luxe, La Machine, issue du Royal de Luxe, comme on les retrouve, que s'organise la fabuleuse piste des géants. Les promoteurs ne reculent devant rien pour valoriser des terrains au bord de la rocade. D'ailleurs, tout cela est lié et on peut entendre le son de ces histoires du Royal de Luxe qui est parti de Toulouse pour revenir pour faire de l'urbanisme ici à Toulouse.
J'y étais pas, mais on m'a raconté. C'était à la fin des années 80. Le Royal de Luxe faisait tourner des bus à la broche et fabriquait des lance-flammes effrayants. Et ça n'a pas manqué. Le bourgeois a pris peur. C'était Baudis, Dominique, le fils de Pierre, qui était maire, comme l'avait été son papa. Et il a le tourné de dos à cette compagnie détonnante, bruyante, presque subversive. Le Royal s'en est allé poser ses bagages à Nantes. Longtemps, ça a été la monumentale erreur de la droite. Ce benêt de maire avait privé Toulouse d'une compagnie qui allait bientôt acquérir une renommée internationale. Dieu merci, la gauche revient et va bientôt nous ramener La Machine, sœur jumelle du Royal de Luxe. Gloria, Gloria, la culture reprend sa place. Une chance ? C'est pas sûr. C'est qu'en grandissant, les saltimbanques turbulents sont devenus des businessmen avisés. Ils ont su accompagner la refonte de la ville de Nantes. Et ce n'est pas que les politiques utilisent les artistes pour atteindre leur but. Le patron de La Machine le dit mieux que personne. C'est un plaisir immense d'avoir une emprise sur le développement d'une ville, d'inscrire des projets dans le temps, de voir la ville se transformer au gré de ses perturbations qui changent la vision de ses habitants. Les artistes participent pleinement d'une transformation de la ville. Il n'est plus question pour le pouvoir de simplement gérer la circulation, mais bien de travailler l'âme de la ville et de ses habitantes. Il faut mobiliser le Pékin, le faire à l'image d'une ville moderne, à la mesure des grandes métropoles. La compagnie La Machine n'émarge pas sur le budget de la culture, mais sur celui de l'urbanisme. Le spectacle de rue est désormais la mise en spectacle de la vie urbaine. Sortez-moi la crasse et l'imprévu, place au spectacle. La rue doit être occupée en permanence. Il faut canaliser les flux des voitures et des passions. Plus de rassemblements sauvages, mais des événements scénographiés où la foule est un élément de plus dans la communication municipale. Le but n'est pas le divertissement comme au temps du pain et des jeux, mais la mobilisation autour du projet de métropole. Il faut que nous, habitantes de Toulouse, adhérions à cette nouvelle ère de grandeur. Paris, Barcelone, Londres, New York et Toulouse. Sur la carte des métropoles, nous devons avoir notre place. Tant pis pour celles et ceux qui ne veulent pas du progrès. Le progrès ne veut pas d'eux.
Met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beams. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. Smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box. Shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town.
Ça, c'est la police qui expulse les indésirables. Ça, c'est le bruit de la ville défoncé par les engins des promoteurs. Ça, c'est l'office de la tranquillité qui efface et aseptise. Et ça, C'est le bruit de mon marteau dans la vitrine de la métropole.
Contre la métropole, chaque geste compte.
On remarque aujourd'hui une relative disparition de l'enfant des espaces urbains. Constatée par de nombreuses études, elle peut aller de pair avec le déclin de la marche au fil des générations. Depuis l'après-guerre et la montée d'un urbanisme moderne sécuritaire, ancré dans l'économie de marché mondialisée, les espaces de liberté d'un enfant dans une ville ont considérablement diminué. Cela n'apparaît pas tellement étonnant puisque cet urbanisme moderne n'accepte pas les improductifs. Or, un enfant est par essence improductif au seul sens économique du terme. Si ses jeux et ses interactions sont très riches au sens de son élévation, de sa construction et de son éducation, il ne crée pas de richesse marchande. Et là, ça gêne. On déteste les improductifs. Ainsi, l'enfant est chassé des territoires urbains. Il n'est présent que dans les espaces plus rentables ou marchands que l'on a créés pour lui. Crèches, écoles, centres de loisirs, espaces sportifs ou pire, espaces de jeux fermés sécurisés. Aujourd'hui, la rue est adulte. L'enfant, pourtant, a une vision singulière de la ville. Tout d'abord, sa petite taille relative le place automatiquement en dehors des standards urbains. De plus, son arpentage de la ville est teinté de poésie, d'aléatoire et de surprise. Il ne file pas droit comme l'adulte, il dérive, il erre, il chemine selon les émotions qu'il éprouve. La période de développement et de questionnement qu'il traverse, l'enfance, amène nécessairement l'enfant à relever toutes nos absurdités adultes contemporaines. La transgression des normes et des usages, omniprésente chez l'enfant, le positionne à la base de toute subversion urbaine. Plusieurs exemples passés ou en cours viennent souligner ça. À partir des années 50, en Angleterre, les terrains, pleins des décombres de la guerre, ont été réinvestis par les enfants pour devenir les terrains d'aventure. Grâce au militantisme de Lady Allen of Hurtwood, paysagiste et activiste en faveur des droits des enfants, ces terrains ont essaimé partout en Angleterre, offrant des espaces de construction et de jeux libres, le tout permettant aux enfants d'appréhender la vie collective et la régulation des conflits par l'autogestion. Bien évidemment, ces terrains d'aventure, tolérés par les décideurs le temps que la reconstruction reprenne, ont été petit à petit évacués, alors même qu'ils représentaient des hauts lieux sociaux extrêmement riches pour les enfants et pour tous les habitants des quartiers. Heureusement, on constate aujourd'hui que ces terrains d'aventure sont en train de renaître, devenant nécessaires pour lutter contre le système de crise perpétuelle. En Grèce, de nombreux terrains ont été réinvestis en premier lieu par les enfants, puis par les habitants. Le monde se réinvente au sein de ces espaces de jeux libres. Et c'est certainement pour ça que l'enfant effraie autant les décideurs urbains. Faire d'un terrain vague un terrain d'aventure, c'est le transformer simultanément en objet de lutte pour un quartier. Dans les années 70, déjà, Denis nous racontait sa ville comme ça.
L'enfant du rez-de-chaussée. Même si vous me faites des chemins, je marcherai à côté. Mais vous ne savez faire que des rues. Et moi, les rues, je ne les connais pas. Il n'y a pas de chemin dans les villes. Moi, je passe par là. Et toi ? Moi, je tourne au coin. Je traverse au feu. Je suis les palissades. Je tombe sur un mur et là, je prends à gauche, tout droit. Il n'y a plus de chemin. Il y a seulement des trajets. J'étais un petit bonhomme de chemin. Vous avez fait de moi un trajetman. Vous me dites toujours, quand tu seras grande ? Alors, je ne vois rien dans les musées, je me perds dans les allées. Tout est trop grand, trop haut, trop large, sauf mes vêtements. Comme je voudrais qu'il y ait encore des marchands de ballons, c'est important de tenir un ballon au bout de ficelle. Avoir dans sa main un instrument, le seul que vous ayez trouvé pour que je ne sois plus l'enfant du rez-de-chaussée. Je pourrais m'envoler à l'étage 500, et là, debout sur ma terrasse, rien n'échappera à ma vigilance. Entendez-vous cette ambulance ? Elle emporte Malbrou, pauvre madame. Mes cours est rassuré, sœur Anne, car là-bas, sortant du métro, j'ai bien reconnu Zorro. Mes yeux sont pleins d'étonnement. Mes yeux n'inventent rien. Mes pieds sont sages. Je me promène, petit animal exotique, vers vos terrains d'aventure. C'est le nouveau nom pour dire jardin d'acclimatation. Mais je ne comprends rien à ce vocabulaire. Trottoir, couloir, parking, building. À quand les manifs sur les périphes ? Et pourquoi pas des espaces verts dans les cimetières ? J'aime mieux Hong Kong que Pékin, parce qu'à Hong Kong, il y a des amoureux dans les rues. Ça me fait penser à des fleurs. Je ne les invente pas, mais j'imagine sur elles des merveilleux papillons. Des papillons qui voleraient en couleur au-dessus des espaces verts. La ville est bien pâle. Alors, quand elle arrive, la couleur, elle fait peur, évidemment. Pourquoi vous voulez parquer l'aventure ? Heureusement, ma maison n'a pas de mémoire. Elle ne sait même pas combien elle a d'étages. Toute la nuit, elle réfléchit. 4, 8, 12 ou 16. Elle a tellement d'habitants qu'elle ne les connaît pas tous. Les enfants se disputent ou sont sages. Elle a tellement d'étages. Mais laissons là les constructions. Comment construire pour ceux qui n'arrêtent pas de grandir? Vous permettez que je vous quitte? C'est pour vous l'heure de la récréation. Moi, je mets encore un deuxième accent aigu.
L'urbaniste n'y est pas. S'il y était, il nous chasserait. Mais comme il n'y est pas, il nous chassera pas. Urbaniste, y es-tu? Urbaniste, entends-tu? Urbaniste, que fais-tu?
Les petits contes qui crépitent au coin du Brasero.
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 Raconte.
Raconte.
Brasero raconte.
Qu'est-ce que tu racontes, Brasero?
Qu'est-ce que tu racontes, Brasero?
Eh, Brasero, ça raconte quoi?
Brasero?
Brasero,
ça raconte?
Eh, Brasero, qu'est-ce que tu racontes?
Tu la racontes ou tu racontes?
Mais qu'est-ce que tu racontes, Brasero?
Previously on Brasero. Dans l'émission précédente de Brasero, midi et soir, nous avions raconté la première partie de l'histoire des sorcières au placard à balai. Dans cette première partie, on découvrait Mélusine, une jeune femme qui avait grandi à la campagne avec sa mère grand. Sa grand-mère qui lui avait appris bien des choses, mais qui lui avait aussi caché jusque-là l'histoire de sa mère. Elle apprit que sa mère était une sorcière et vivait à Toulouse. À cette époque, il y a une vingtaine d'années, les sorcières étaient libres et sortaient surtout la nuit. Leur présence apaisante et protectrice incitait de nombreuses personnes à en faire de même, occupant ainsi les rues pour toute la nuit. Jusqu'à ce qu'un groupe anti-sorcière prenne le pouvoir sur la ville. Après la médiatisation d'un coup monté acculant les sorcières, ils réussirent à les contraindre à ne plus sortir la nuit en instaurant un couvre-feu valable pour toute la population, sous prétexte d'assurer la sécurité de tous, et la population l'accepta. Le discours anti-sorcière avait pris beaucoup de place. La répression menée par le maire de la nuit et les forces de l'ordre étaient trop puissantes et venaient à bout de toute forme de résistance. Les sorcières, à bout de force, s'étaient réfugiées dans leur placard à balai et s'y étaient endormies, plongées dans un profond et long sommeil. Après avoir découvert cette histoire, Mélusine décida de partir à la ville à la recherche de sa mère. Et tant d'aventures attendaient Mélusine. Sur les conseils de sa grand-mère, elle avait rencontré Malika, la dame aux chiens, qui lui avait donné le contact de Bachir et de ses petits poissons magiques. Cette dernière visite la laissa avec une charade dont la solution l'amènerait tout droit à la maison de sa mère. Et c'est là que nous nous sommes arrêtés.
Mon premier est celui qui attrape le loup. Mon deuxième, l'inventrice de la procréation miraculeusement assistée. Mon troisième est une épice. Et le tout est le nom de la rue où se trouve la maison. Mais j'en sais rien, moi.
Mélusine, charade en tête, se mit à marcher dans la ville. Elle arpenta les rues de Saint-Michel et traversa les rails du tramway jusqu'à arriver au Carme.
La charade tournait dans sa tête comme dans un labyrinthe.
Ensuite, elle prit la rue piétonne des Filatiers jusqu'au Capitole.
Et toujours pas de réponse.
Elle marcha encore et encore. Elle tomba sur la grande église de Saint-Sernin, qu'elle contourna pour prendre la rue Gatien-Arnoux jusqu'à la place Arnaud-Bernard.
Ah mais c'est ça, mon premier, c'est Pierre. C'est lui qui attrape le loup. C'est l'histoire que grand-mère me racontait.
Au bout de quelques heures, alors qu'elle remontait lentement la rue Honoré-Serre, elle n'avait toujours qu'une seule réponse à la charade.
La lune brillait et Mélusine se sentait perdue. Ses pieds ne voulaient plus avancer. Elle décida de s'asseoir sur une borne EDF en face de l'église des Minimes. C'est alors que lui vint la deuxième réponse à la charade.
Ah, mais la procréation miraculeusement assistée, c'est Marie! Pierre et Marie, Pierre et Marie.
Alors que Mélusine se massait les chevilles en soupirant, elle se leva pour continuer à marcher encore. Le regard à l'affût, elle remonta l'avenue des Minimes jusqu'à un énorme rond-point. Elle regarda autour d'elle et au loin, elle vit une enseigne. En plissant les yeux, elle réussit à lire ce qui était écrit dessus.
Rue Pierre et Marie Curie. Mais bien sûr, mon premier c'est Pierre, le deuxième c'est Marie et l'épice c'est le curie. J'y suis.
Elle remonta la rue et assez vite tomba sur un terrain vague, où seule une petite maison avait survécu au bulldozer des urbanistes. Les mots de la souris qui traduisait les poissons de Bachir lui revinrent alors en tête.
Une maison au milieu d'un terrain vague. Tu la reconnaîtras, car à minuit la lune rebondit sur un des carreaux. Si la maison accepte ta présence, une biche sera là et d'un coup de pied t'ouvrira la porte.
Elle regarda la maison. La lune ronde offrait son plus beau reflet sur la plus haute de ses fenêtres, et au bout de quelques secondes, une biche qui passait par là, l'air de rien, s'arrêta devant la porte, mit nonchalamment un coup de pied dedans, et la porte s'ouvrit. Mélusine était aux anges. Enfin, elle était arrivée à bon port. Une fois rentrée dans la vieille maison abandonnée, elle courut tout droit jusqu'au placard à balai. Elle prit une grande inspiration, mit ses mains à moitié gelées sur les poignets et tira. Et tira. Et tira. Impossible de l'ouvrir. Elle tapa sur la porte et ça de plus en plus fort. Si rien ne se passait, elle était désormais entourée d'un nuage de poussière qui tombait au rythme de ses coups. Elle s'arrêta à bout de force. Elle était là, devant la porte du placard à balai, où sûrement était recroquevillée sa mère, et elle ne pouvait pas l'ouvrir. Alors, elle resta là, plantée devant cette porte, et elle se mit à pleurer. Mais le nuage de poussière, une fois dissipé, laissa apparaître quelques mots gravés sur la porte du placard. Elle passa la main dessus pour mieux le déchiffrer.
Sorcière, sorcière, tu n'as plus à te taire. Sors de ton placard, enterre tes cauchemars. Il n'est pas trop tard pour nous redonner l'espoir.
En disant ces mots, le placard se mit à bouger. Mais il ne s'ouvrait toujours pas. Alors elle le dit une fois, deux fois, trois fois, plus vite et plus fort. Bien qu'elle sentait à chaque répétition de la formule une présence de plus en plus vive, la porte ne s'ouvrait toujours pas.
« Je sais que tu es là, que tu existes. »
Elle appela sa mère, lui demanda comment la sortir de là, mais pas de réponse.
« Réfléchis, Mélusine, réfléchis. »
À bout de force, ayant répété plus de 1000 fois ces mots gravés, elle décida de faire le tour de la maison, de se poser 2 minutes, de s'éclaircir les idées. Dans le salon, à côté d'un vieux canapé bordeaux, elle trouva une guitare, sûrement la guitare de sa mère. Cela lui redonna le sourire. Elle la prit dans ses mains comme un trésor, passa sa main sur son flanc comme pour la caresser et s'installa avec elle sur le vieux canapé. C'est alors qu'elle se mit à gratter. C'est alors qu'elle se mit à fredonner. C'est alors qu'elle se mit à chanter.
Sorcière, sorcière, tu n'as plus à te taire. Sors de ton placard, enterre tes cauchemars. Sorcière, sorcière, il n'est pas trop tard pour nous redonner l'espoir.
Le cœur de Mélusine battait la chamade. À l'autre bout de la pièce, une silhouette et son ombre étaient en train de sortir difficilement du placard. C'était sa mère. Elle s'approcha lentement d'elle. Elles se regardèrent comme une première fois. Elles se regardèrent comme si elles se paraissaient familières. Elles se regardèrent pendant un temps infini. Puis,
Mélusine la prit par le bras pour l'installer tranquillement autour de la table de la cuisine. Elle mit de l'eau à chauffer pour lui faire une tisane. Aucun mot n'était encore sorti de leur bouche. C'est sa mère qui prononça le premier.
Mélusine.
Une fois commencé, c'est comme si on ne pouvait plus les arrêter. Mélusine lui raconta tout.
La forêt, ma grand-mère, mon arrivée à Toulouse, la rencontre avec Malika, puis avec Bachir, la charade, puis la biche.
Ensuite, c'est sa mère qui lui raconta tout.
Le couvre-feu, la résistance, le jour où je t'ai confié à grand-mère, les années passées en sommeil dans le placard, l'espoir et le désespoir qui m'ont traversée.
Mélusine comprit que le couvre-feu et la répression avaient agi comme une malédiction lente et sournoise qui avait peu à peu amoindri le pouvoir des sorcières. Celles qui avaient refusé de renier leur vie de sorcière n'avaient d'autre choix que de se mettre en sommeil dans leur placard à balai. Avant de perdre leur dernier souffle de résistance, elles avaient inventé cette chanson comme un sort qui les réveillerait toutes, comme un appel qui les sortirait de leur torpeur pour prédire des jours meilleurs.
Après de longues heures de retrouvailles, le récit de toutes ces aventures, après s'être serré dans les bras, pour la mère de Mélusine, l'heure était à la libération. À la libération de toutes ses sœurs sorcières. Et sa mère, elle avait un plan. Bien sûr qu'elle en avait un. Elle en avait même 1000 des plans, vu le temps qu'elle avait passé dans ce placard à attendre ce moment.
Ni une ni deux, elles partirent vers la gare pour remonter la rue du 10 avril. Tout en haut de cette rue sans fin se trouvait l'antenne radio de la ville. Il y avait Bachir et Malika aussi. C'était le bon endroit, le bon moment, les bonnes gens. Alors, une fois que fut branché le câble qui permettait de se connecter à l'antenne, toutes se mirent à chanter, à cœur joie, la chanson.
Sorcière, sorcière, tu n'as plus à te taire. Sors de ton placard, enterre tes cauchemars. Sorcière, sorcière, il n'est pas trop tard pour nous redonner l'espoir. Sorcière, sorcière, tu n'as plus à te taire. Sors de ton placard, enterre tes cauchemars. Sorcière, sorcière, il n'est pas trop tard pour nous redonner l'espoir. Sorcière, sorcière.
Ce soir-là à Toulouse, on n'entendait plus que ce refrain et des portes s'ouvrir lentement. Puis on aperçut des balais volés, avec sur leurs manches des sorcières, reprenant le refrain toute la nuit durant. Beaucoup d'habitants sortirent aussi pour assister au spectacle. Et comme s'ils se réveillaient aussi, ils se mirent à se remémorer l'époque presque oubliée du temps des sorcières. Ils la racontèrent à leurs enfants et à leurs petits-enfants aussi. D'autres restèrent enfermés, à double tour chez eux. Et c'est tant pis pour eux. Ce soir-là, les flics et les autorités, eh ben, ils étaient débordés. Ils ne savaient vraiment pas où donner de la tête.
Depuis ce jour, si vous entendez la nuit des personnes chanter à tue-tête alors que c'est interdit, arpenter les rues de la ville alors que ce n'est pas permis, voler sur des balais ou se réunir et discuter de longues heures là où elles ne sont pas censées le faire, vous saurez qu'elles fêtent la libération des sorcières et qu'elles portent l'espoir de ne plus jamais se laisser déposséder de la nuit et de la ville.
Survive on the crumbs of the flex of spit that you leave scattered on the floor. If it's not tagged, then it won't go off. If it's not bagged, then you haven't made a loss. It's yours for the keeping. 'Cause if they cannot feed the people they serve in a profit margin, drowns voices unheard, then it's time we started feeding. So eat the rich that devour the poor and the sick. Eat the wealthy ones in suits with a five-finger selection of food.
Thank you.
Alors voilà, c'est fini.
Vive la métropole.
Finalement, merci. Merci, Moudinque.
C'est vrai, merci Jean-Luc. Tous ces sbires,
on adore la métropole.
Juan Lucas, sans toi.
D'ailleurs, on va chanter une chanson spéciale dédicace à Jean-Luc.
Sorcière, sorcière, tu n'as plus à te taire. Sors de ton placard, enterre tes cauchemars. Sorcière, sorcière, il n'est pas trop tard pour nous redonner l'espoir. Sorcière, sorcière, tu n'as plus à te taire. Sors de ton placard, enterre tes cauchemars. Sorcière, sorcière, il n'est pas trop tard pour nous redonner l'espoir.
Le tube de la nouvelle année.
C'est
voilà, vous l'avez.
Moudinque, Moudinque, on n'a pas peur, on cramera l'Occitanie Tower.
Ça, c'est la police qui expulse les indésirables. Ça, c'est le bruit de la ville défoncé par les engins des promoteurs. Ça, c'est l'office de la tranquillité qui efface et aseptise. Et ça, c'est le bruit de mon marteau dans la vitrine de la métropole.
Contre la métropole, chaque geste compte.
Voilà, Bras Zéro, c'est fini et à bientôt dans la rue.